Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est tout juste 6h30 à Bangui, 5h30 à Ouagadougou et en temps universel. À l'heure d'un nouveau journal consacré à l'actualité africaine avec vous, Arthur Ponchelet, bonjour.
Bonjour Gaëtan et bonjour à vous qui nous écoutez.
Et à la une ce matin, Arthur, un homme viscéralement engagé contre la pauvreté, voilà comment le continent se souvient du pape François.
Le souverain pontife décédé hier à Rome, 88 ans, dont 12 comme chef de l'église catholique. Son pontificat aura notamment été marqué par ses voyages en Afrique et sa dénonciation de la corruption. Les hommages et le souvenir vont désormais laisser place aux questions. Quel avenir pour l'église catholique? Est-ce le temps d'un pape africain, tout cela, on en parle avec notre invité dans quelques minutes, Gaëtan.
Oui, Monseigneur Dieudonné Zapailanga, l'archevêque de Bangui, le répondra aux questions de Christophe Boisbouvier.
Dans ce journal aussi, la politique en RDC et après le PPRD de Joseph Kabila, d'autres partis pourraient être suspendus par les autorités. Le dialogue avec le pouvoir, l'opposition en Centrafrique n'y croit pas. Les élèves du Cameroun vont trouver porte close dans beaucoup d'écoles ce matin. Les enseignants démarrent une grève de 4 jours. Et puis les sports, juste après ce journal et le coup d'envoi de la 13e édition de la Coupe du Président au Niger. C'était le 3 juillet 2022, sous les dorures et le faste de la basilique Saint-Pierre de Rome. Les tambours et les chants traditionnels du rite zaïrois remplaçaient l'orgue et les chants liturgiques. C'est l'une des images marquantes du pontificat du pape François. Pour la deuxième fois de l'histoire, ce rite, la seule variante autorisée par le Saint-Siège, était célébré par le souverain pontife en personne, qui s'était même fendu de quelques mots en lingala. Une nouvelle preuve de l'attachement de François au continent africain. Il faut dire, Sidi Ansané, qu'il s'y est rendu à 5 reprises et visité 10 pays au total.
Lors de son premier voyage au Kenya et en Ouganda en 2015, le pape François débute son aventure africaine par la cause la plus chère à son cœur, la lutte contre la pauvreté. Après une visite dans un bidonville de Nairobi, il fustige, comme à son habitude, le capitalisme ultralibéral et la concentration des richesses, tout en appelant à une juste distribution des ressources naturelles et humaines. Lors de ses déplacements en Égypte et à Maurice, le souverain pontife félicite les deux États pour leur culture de dialogue entre religions. Il qualifie même l'Égypte comme une terre de civilisation et terre d'alliance. À Madagascar, François pointe la misère inhumaine qui frappe la grande île parmi les pays les plus pauvres d'Afrique et défend la protection de l'environnement en critiquant la déforestation massive. C'est depuis le Maroc qu'il met l'accent sur le sort réservé aux migrants, autre sujet cher à ses yeux, au point de se rendre dans un centre d'accueil de migrants de l'association catholique Caritas à Rabat. L'évêque de Rome ne fait pas l'impasse sur les conflits passés ou actuels, en appelant à la réconciliation en Centrafrique et au Mozambique, au contact des déplacés internes au Soudan du Sud et en dénonçant un colonialisme économique asservissant et un génocide oublié en République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique, ce n'est pas une terre à exploiter et à dévaliser, lancera-t-il depuis Kinshasa.
Sidi Yansané, depuis l'annonce donc du décès du pape François, les hommages affluent sur le continent. Un avocat inébranlable de la paix pour l'Union africaine, un appel incessant à la fraternité entre les peuples pour Félix Tshisekedi, c'est le message de foi et d'humanité que retient le président gabonais Brice Clotaire-Oligui Nguema. Et il n'y a pas que les dirigeants qui s'émeuvent de la disparition du chef de l'église catholique. Un peu partout sur le continent, des messes, des prières ont été organisées. C'était le cas à Libreville hier, reportage Yves-Laurent Goma.
Cathédrale Sainte-Marie, ses fidèles sont venus prier pour le pape, comme demandé par l'archevêque de Libreville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba.
Nos âmes lui ont été confiées sur cette terre. Il a été un pape merveilleux et il le sera toujours.
C'est notre Saint-Père, c'est lui qui nous gouverne comme un président de la République. Donc tout le monde est affligé, quoi.
Maintenant, la prière que nous faisons, que le Seigneur puisse nous donner encore un autre pasteur qui conduira son peuple d'ici là.
Ce concert de louanges ne fait pas oublier la déception de beaucoup de Gabonais qui reprochent au pape François d'avoir demandé aux prêtres d'accorder la bénédiction nuptiale aux couples homosexuels.
Sincèrement, quand le pape avait fait cette déclaration-là, j'étais tellement écœuré. Comment un pape peut tenir ce genre de propos?
Une décision vraiment que je n'ai jamais compris. C'est scandaleux.
Mais François laisse surtout une image d'un souverain soucieux des pauvres.
Un pape qui luttait en faveur des migrants, qui risquent leur vie dans la mer pour aller en Europe. C'est un pape qui aimait vraiment les pauvres. Je ne l'oublierai jamais.
Lors de ses tournées africaines, le pape François n'est pas venu au Gabon comme Jean-Paul II il y a 43 ans. Yves-Laurent Goma, Libreville. RFI.
Après le temps du souvenir, de l'émotion et du recueillement, donc place à celui des questions. Que va-t-il se passer maintenant? Quelles sont les étapes avant le conclave? Dès ce matin, les cardinaux se réunissent pour une première congrégation générale. Cette période de rite est très codifiée, on vous la résume sur RFI.fr. En tout cas, une chose est sûre, le Saint-Siège est à la croisée des chemins. Quel avenir pour l'Église? C'est à cette question que vont devoir répondre les cardinaux qui participeront au conclave. Parmi eux, 18 Africains, dont Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, l'archevêque d'Abidjan. Alexandra Branjon lui a demandé si le temps était venu pour un pape africain.
Alors vous savez, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Hein. Peut-être que nous sommes un peu dans les perspectives très humaines. Mais si c'est aujourd'hui le temps de Dieu, mais je ne crois pas qu'il en soit ainsi. Mais l'Esprit Saint nous le dira, quoi qu'il en soit. Nous nous sommes en marche avec le Seigneur à l'écoute de l'Esprit Saint qui nous indiquera le pape pour notre temps. Et ma prière est que ce soit un pape de la périphérie, un pape en sortie missionnaire, parce que c'est ce qu'il faut retenir du pape François, une sortie de l'Église pour la mission, vers les périphéries, partout, sans qu'il y ait de barrières. Que ce soit un Africain, que ce soit un non-Africain, l'essentiel est que le Seigneur nous indique celui qu'il faut pour aujourd'hui.
Un réformiste, c'est ça?
Un réformiste, mais qui rentre dans le sens de l'Évangile. Voilà. Si être proche de l'Évangile, c'est être réformiste, alors je suis pour ça.
Monseigneur Ignace Bessi Dogbo avec Alexandra Branjon. L'avenir de l'Église catholique et l'héritage laissé par le pape François. On en parle tout au long de la matinée sur RFI. Édition spéciale dans une vingtaine de minutes autour d'Andréane Mellard et de ses invités. Rendez-vous aussi sur RFI.fr où l'on revient notamment en images sur le pontificat du pape François. 5h37 en temps universel. Dans le reste de l'actualité, après les poursuites judiciaires engagées contre Joseph Kabila et la suspension de son parti, le PPRD, le gouvernement congolais s'apprête-t-il à aller encore plus loin? On le rappelle, l'ancien président est dans le viseur des autorités qui l'accusent notamment de complaisance avec le M23. Désormais, Patient Ligaudy, d'autres personnalités politiques pourraient être concernées.
Des arrêtés ministériels ont été signés par le ministre de l'Intérieur pour formaliser la suspension des activités du PPRD sur toute l'étendue du territoire national. Selon les sources des RFI, d'autres partis politiques pourraient également être concernés. Il s'agit dans un premier temps d'une mesure préventive, renseigne-t-on, du côté des autorités congolaises. Le parquet compétent devra se prononcer dans un délai de 15 jours sur chacun des cas, disent les mêmes sources. Kabila est astreint à des obligations de par son statut d'ancien président. Nous sommes l'État, nous avons nos services. Il est sorti du pays clandestinement et est rentré clandestinement, affirme une source gouvernementale. Et un haut responsable politico-sécuritaire congolais va plus loin. À part Joseph Kabila, nous savons qu'il y a d'autres acteurs politiques connus qui ont des mouvements de Kigali et de Goma. Du côté du ministre de la Justice, on annonce que des procès seront lancés dans les prochains jours. Tous les biens identifiés, avoirs et comptes bancaires seront gelés. Des personnes ont été identifiées. Ils ne pourront pas quitter jusque-là le pays. Il y aura des procès, à déclarer à RFI le ministre de la Justice, Constant Mutamba.
Patient Ligaudy, et c'est dans ce contexte que les discussions se poursuivent à Doha entre le gouvernement congolais et le M23. Un dialogue qui s'enlise avec notamment la crispation autour du terme de groupe terroriste utilisé par Kinshasa pour qualifier l'AFC M23. On vous raconte tout sur RFI.fr. De nouveaux tirs d'artillerie lourde entendus à El Fasher, la capitale du Darfour Nord au Soudan. C'est un comité de résistance locale qui le rapporte. Il fait état de plus de 30 morts dans cette ville assiégée par les paramilitaires, les FSR, qui occupent la capitale du Darfour Sud, Niala. Ils s'apprêtent même à en faire la base de leur gouvernement parallèle. Mais l'armée régulière y prépare un assaut. Objectif, libérer cette ville qui sert selon elle à l'importation d'armes pour les paramilitaires. L'opposition en Centrafrique va-t-elle accepter le dialogue proposé par le pouvoir? Vous l'avez entendu hier sur notre antenne, Fidèle Gwandjika, proche conseiller de Faustin Archange Touadéra, a assuré que le président était d'accord pour l'organisation d'un dialogue politique avec l'opposition. Une proposition trompeuse, réagit ce matin le coordonnateur du BRDC, le Bloc Républicain pour la Défense de la Constitution, pour Maître Crépin Boligumba. Cette déclaration vise avant tout à donner des gages à la communauté internationale.
Le président de la République est prompt à adopter une posture médiatique pour donner à voir de lui qu'il est un homme de dialogue. Mais où avez-vous vu que lorsque deux parties vont à un dialogue, les autres connaissent déjà le contenu des propositions de l'une des parties. C'est bien la volonté du président de ne pas aller au dialogue et de trouver des excuses pour gagner du temps et faire un autre coup d'état constitutionnel. Fidel Ngwandika donne à entendre que le dialogue serait une sorte de comédie. Nous vont se retrouver pêle-mêle, pouvoir public, faux opposants créés de toutes pièces, partisans du MCU, avec l'opposition démocratique. L'opposition démocratique dit non. Nous voulons un dialogue direct avec le chef de l'État pour régler les problèmes, notamment des critères d'éligibilité, la gouvernance dans notre pays. Et tout cela doit se passer sous l'égide d'un médiateur. Vous voyez bien avec quelle désinvolture il parle de ce dialogue. Il faut un médiateur de haut niveau qui puisse garantir l'exécution des accords qu'on pourrait avoir.
Maître Crépin-Boli Goumba avec Florence Maurice. Le gouvernement burkinabé annonce qu'une tentative de déstabilisation a été déjouée par les services de sécurité. Ce sont les arrestations dont on vous parlait hier. D'après les autorités, des comploteurs avaient prévu un assaut sur le palais présidentiel le 16 avril dernier. Il s'agirait d'officiers et de soldats déserteurs désormais en fuite en Côte d'Ivoire. Selon le ministre burkinabé de la sécurité, le complot se poursuivra activement depuis ce qu'il qualifie comme le centre des opérations à Abidjan. En bref, les célébrations du 50e anniversaire de la CEDEAO débutent aujourd'hui. C'est à Accra que ça se passe. Les membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se réunissent dans la capitale ghanéenne. Le Mali, le Burkina et le Niger, eux, seront absents. Les trois pays de l'Alliance des États du Sahel ont claqué la porte de l'organisation sous-régionale. Direction le Cameroun avant de refermer ce journal. Coup d'envoi de 4 jours du mouvement École morte dans tout le pays. Les enseignants du public comme du privé sont en grève. Elle dure jusqu'à vendredi et est organisée par plus d'une dizaine de syndicats réunis dans le collectif des organisations des enseignants du Cameroun. Richard Onanena, que réclament ces organisations?
Les syndicats ont 6 principales revendications. Parmi elles, la tenue d'un forum national de l'éducation pour repenser l'école et la revalorisation du statut spécial de l'enseignant, afin qu'ils puissent se consacrer uniquement à leur métier. Ils demandent aussi une convention collective spécifique, notamment pour les enseignants du privé. Le préavis des grèves avait été déposé fin mars pour les établissements du public et du privé. Le gouvernement a engagé des discussions et plusieurs rencontres ont eu lieu dans différentes administrations. L'une d'elles s'est tenue le 17 avril dernier au ministère de la fonction publique pour revoir le statut de tous les enseignants. Cette grève intervient au moment où les délégués régionaux ont annoncé la tenue des examens blancs. Les enseignants attendent désormais, et je cite, un geste fort du gouvernement. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Et c'est à Yaoundé où il est tout juste 6h43 que je vous laisse avec Gaëtan Plenet.
Merci Arthur Ponchelet. Prochain journal dans 20 petites minutes pour reparler évidemment.